Radio Okapi. Journal présenté par Pascal Massirika.
Les titres de l'actualité, fin ce jeudi à Johannesburg, en Afrique du Sud, du sommet des BRICS. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud décident de renforcer davantage leur coopération en matière de sécurité alimentaire. Ces pays ont accepté également l'adhésion de l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Éthiopie. Au Nord Kivu, une quarantaine de voyageurs, dont des femmes et des enfants, sont pris en otage depuis hier entre les localités de Kilorilué et Burungu, territoire de Masisi. D'autres ont été acheminés à Burungu. Des sources concordantes craignent pour leur vie dans cette zone en proie aux violences. Notre invité, c'est le responsable du réseau d'innovation organisationnelle à pied d'œuvre à Bukavu. Médard Liboué parle de la nécessité qu'il y a de booster le développement à la base avec les recettes générées par les entités territoriales décentralisées. Madame, Messieurs, bonsoir. Les BRICS, composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, renforceront la coopération en matière de sécurité alimentaire entre eux et au-delà. Ils ont également affirmé leur soutien indirect à la Russie en condamnant les sanctions contre ce pays. Ces résolutions ont été adoptées ce jeudi à la fin du 15e sommet tenu à Johannesburg. Ils sont également revenus sur la guerre en Ukraine. Le groupe note avec appréciation l'initiative africaine visant à régler le conflit ukrainien. Et pour son adhésion et son extension, ils ont accepté l'adhésion de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Iran, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de l'Éthiopie. La RDC, représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, a pris part à ce sommet comme invité. Explication avec vous, Alain Rongmouchinge.
Les BRICS ont plaidé pour la réforme de l'ONU et ont appelé à une représentation accrue des pays en développement au Conseil de sécurité de l'ONU. Se positionnant sur les conflits que connaît le monde, le groupe politico-économique affirme son engagement pour la résolution pacifique des conflits au Niger, en Libye et au Soudan sur la base de la médiation de l'ONU et de l'Union africaine. Ils soutiennent également les aspirations du Brésil, de l'Inde et de l'Afrique du Sud à jouer un rôle plus important au Conseil de sécurité de l'ONU et s'opposent aux barrières commerciales y compris celles imposées par les pays développés sous prétexte de lutter contre le changement climatique. Et enfin, les dirigeants des BRICS soutiennent l'utilisation des monnaies nationales dans le commerce international et les transactions financières entre les pays des BRICS. Il faut dire que lors de ce sommet, les pays des BRICS n'ont pas pris la décision de créer une monnaie unique, une décision attendue pour faire barrage à l'hégémonie du dollar américain.
Merci Alain Rongmouchinge. Le gouvernement de la RDC a rejeté en bloc les allégations formulées par l'ONG internationale Human Rights Watch sur la répression des opposants à l'approche des élections de décembre prochain. Dans un communiqué publié hier à Kinshasa par son porte-parole Patrick Muyaya Katembwe, le gouvernement assure protéger les droits humains. Blaise Shindani Kambala.
Ainsi, la RDC récuse de manière catégorique les allégations des restrictions des libertés fondamentales, d'arrestations arbitraires et d'intimidations dénoncées par l'ONG internationale de défense des droits de l'homme. Le communiqué du gouvernement soutient que, face au cas spécifique cité par Human Rights Watch, les mesures prises par les autorités visent à maintenir l'ordre public, à préserver la sécurité des citoyens et à prévenir toute manifestation de violence. Par ailleurs, les actions prises à l'encontre des personnes spécifiques reposent sur des informations crédibles et de preuves tangibles, affirme le gouvernement. Il rappelle que les revendications démocratiques sont légitimes, mais elles doivent s'exercer dans le respect de règles sans compromettre l'intégrité des citoyens. Enfin, le gouvernement de la RDC rassure que les élections se dérouleront dans la sécurité, permettant ainsi au peuple congolais de choisir librement son dirigeant.
On enchaîne avec le Nord Kivu où une quarantaine de voyageurs dont des femmes et des enfants sont pris en otage depuis hier dans la région comprise entre les localités de Kilolirwe et Burungu, territoire de Masisi. Des sources concordantes anonymes affirment que certains otages sont gardés dans une école à Rochebeche et d'autres ont été conduits vers des collines surplombant le village de Burungu. Ces sources craignent pour la vie de ces personnes. À Goma, la correspondance de Gabriel Ouamenia.
La plupart de ces voyageurs étaient transportés les uns par les motards en provenance de la cité de Mueso, de Kichanga et les villages environnants sous occupation des rebelles du M23, alors que les autres otages provenaient de Goma en direction de Mueso et des localités environnantes. Selon les mêmes sources, cette situation a créé depuis hier mercredi une vive panique au sein de la population et a entraîné ainsi des vagues de déplacement des habitants de Burungu et environ. Nos sources précisent que les habitants les plus courageux de Burungu, qui n'ont pas pu fuir hier mercredi, viennent d'évider les lieux ce jeudi matin. Par ailleurs, le nombre de personnes prises en otage par les rebelles du M23 pourrait aller au-delà de 40 personnes, soulignent d'autres sources contactées dans les groupements voisins de Kamuronza, en chefferie de Baoundé. Jusqu'à hier soir, le sort de ces personnes n'est pas toujours connu à cause de l'inaccessibilité dans ces secteurs, car toute la zone reste totalement sous occupation des rebelles du M23. Plusieurs acteurs locaux craignent pour la sécurité des otages et plaident pour l'implication des autorités afin d'obtenir leur libération. Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Okapi.
Et en Ituri, trois corps ont été découverts mercredi matin à Bunia. Il s'agit d'un couple décapité par un présumé milicien actif dans le territoire de Djougou. Des habitants de Bandai demandent l'intervention des autorités locales pour procéder à l'inhumation de ces dépouilles. Le récit de Martial Kizabi.
Le premier corps est celui d'un adolescent portant des traces d'étranglement. Il a été découvert mercredi matin dans un caniveau non loin du rond-point Kappa. Selon des habitants voisins du lieu, il s'agirait d'un enfant de la rue bien connu et qui ont trouvé refuge à ce rond-point de la route menant à l'aéroport de Bunia, tout près au quartier Bakongolo, précisément sur l'avenue Samaria.
La police scientifique est arrivée là-bas, tous les enquêteurs sont arrivés, ils ont fait des enquêtes à la hâte et ils sont partis, laissant les deux corps là qui étaient déjà en voie de décomposition. Nous nous sommes posé la question, est-ce que c'était à la communauté ou bien à la famille de pouvoir enterrer ces corps pendant que c'était un cas d'assassinat qui a été commis dans la maison et dans une entité administrative. C'était plutôt de la responsabilité de l'État de pouvoir évacuer ces corps, les amener au niveau de la morgue. Nous demandons à ce que les autorités puissent prendre leurs responsabilités, que ces corps ne soient pas enterrés tant que nous n'avons pas élucidé, que le gouvernement puisse prendre en charge les obsèques parce que c'est une famille de vulnérables. Jusqu'à présent, il n'y a pas un responsable attitré qui s'est présenté pour prendre en charge ces corps-là.
La police que nous avons contactée n'a pas souhaité pour le moment s'exprimer sur ces trois décès. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
On en vient à l'affaire de la disparition de 120 tonnes de cathode de cuivre appartenant à l'entreprise minière Tinke Fungurume Mining. Plusieurs sources renseignent que le commandant de la 22e région militaire est mise à la disposition de la justice. La nouvelle est confirmée par le directeur de l'Institut de recherche en droits humains basé à Lubumbashi. Hubert Chiswaka plaide pour la tenue d'un procès équitable afin d'éviter de décourager les investisseurs. Il est au micro de Jean-Gandou Kabongo.
Il revient à l'Institut de recherche en droits humains que le général commandant 22e région militaire soit en détention à la DEMIAP suite à la dénonciation de vol de 120 tonnes de cuivre cathode qui appartenait à Tinke Fungurume Mining, qui transportait trois tracts de l'entreprise Maj Logistique. Du 1er au 2 juillet, après avoir été détournés de la frontière de Kasumbalesa, on les avait amenés dans l'enceinte de la 22e région militaire. Et de là, ces cathodes ont été amenés à une destination inconnue. L'IRDH avait trouvé que c'était inacceptable qu'on puisse accuser les personnes qui sont censées protéger la République et la population soient impliquées dans des vols des biens de la population. Donc à ce niveau, ce que nous demandons, c'est qu'on puisse organiser un procès équitable au cours duquel le général pourra présenter ses moyens de défense et qu'on puisse vraiment éclairer l'opinion sur ce que c'était effectivement passé, parce que le vol des cathodes de cuivre de TFM est lié à beaucoup de questions d'insécurité dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir, à Kisangani, chef-lieu de la Tchopo, le bureau de la Caritas Développement est assiégé depuis 2 jours par des enseignants venus des territoires de Bafouassende, Bassoko, Yahouma, Ubundu, Opala et même de la ville de Kisangani. Ils réclament leur salaire du mois de juillet dernier. Ils mettent le gouvernement congolais devant ses responsabilités. Quant à ceux, l'un d'eux s'est confié à Jacques Mkonkole.
Nous sommes rassemblés aujourd'hui devant la Caritas pour réclamer notre salaire du mois de juillet. Aujourd'hui déjà, nous sommes le 24 mois d'août. Jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi notre petite somme. C'est là, nous sommes là pour revendiquer notre droit. Nous demandons vraiment aux autorités, même à la DINACOP, de nous faire quitter cette BAC. Ce n'est pas même une BAC. Nous souffrons. Aujourd'hui, là, les enfants souffrent à la maison. Même nous, il n'y a pas moyen. Nous sommes des locataires. Pour payer les loyers, c'est tout un problème. Aujourd'hui, là, on risque même de nous chasser de nos maisons. Oui, et la rentrée scolaire aussi, les enfants. Qu'est-ce qu'on va faire pour nos enfants? Il nous dit que jusqu'à présent, il n'y a pas encore la liquidité au niveau de la banque. Alors que nous connaissons très bien que le gouvernement vire l'argent dans toutes les banques.
Promouvoir des aliments bio fortifiés pour lutter contre la malnutrition dans le Kwilu, c'est le but d'un atelier organisé hier à Bandunduville par le Centre international d'agriculture tropicale. C'est dans le cadre du programme multisectoriel de nutrition avec l'appui financier de la Banque mondiale. Des précisions avec le responsable de la nutrition à l'ONG Harvest Plus, Dr Kossi Akweki est au micro d'Irène Bauman.
Nous sommes venus ici dans la ville de Bandundu pour faire un plaidoyer auprès des responsables des médias et enseignants d'école sur l'introduction des aliments biofortifiés dans la lutte contre la malnutrition dans la province de Kwilu. Et c'est important de faire ce plaidoyer parce que ce sont ces responsables qui vont nous aider à faire la promotion des aliments biofortifiés dans la lutte contre la malnutrition dans cette province de Kwilu. Parce que la prévalence de la malnutrition est très élevée dans la province. Si nous prenons par exemple le retard de croissance, la prévalence est à 47%. Si nous prenons par exemple la malnutrition aiguë globale, la prévalence tourne autour de 10%. C'est quand même grave en termes de conséquences puisque ces enfants qui souffrent de la malnutrition ont des problèmes de développement mental. Et à l'école, c'est l'échec répétitif. D'où l'importance de lutter contre la malnutrition dans la province de Kwilu. Les aliments dont nous faisons la promotion, ce sont le maïs jaune qui est riche en vitamine A. Il y a les haricots riches en fer et en zinc. Il y a le manioc jaune riche en vitamine A. Et la patate douce qui riche en vitamine A, que nous appelons aliments biofortifiés et qui sont très importants dans la lutte contre la malnutrition.
Relance des activités de la Société nationale des chemins de fer du Congo sur le lac Kivu entre Bukavu et Goma. Cette entreprise vient d'acquérir du président Félix Tshisekedi Tshilombo 4 vedettes rapides pour assurer le transport entre les deux villes. En mission à Bukavu, le directeur général de la SNCC regrette cependant la spoliation des installations de la SNCC par des privés. Il appelle les gouvernements congolais à libérer au plus vite ces installations afin de permettre l'entrée en service des vedettes en septembre prochain. Fabien Moutombe s'est confié à Emmanuel Elemejo Kabedi.
Le président de la République vient de mettre à la disposition de la SNCC 4 vedettes rapides qui vont travailler entre Goma et Bukavu. Et une vedette peut prendre 82-83 personnes. Ce sont des vedettes rapides qui feront Bukavu-Goma en dehors 2 heures. Nous sommes venus organiser l'arrivée de ces 4 vedettes, voir comment est-ce que nous allons les exploiter, où est-ce que nous allons les accoster. Je me rends compte que la SNCC, elle est sérieusement spoliée. Nous nous retrouvons les ports, les quais de la SNCC spoliés. Mais comment est-ce que nous allons exploiter les 4 vedettes? Où est-ce que nous allons accoster? Là, la balle est dans les camps de l'État au niveau des 2 provinces. La province du Sud Kivu et la province du Nord Kivu. Et les gens dégagent les installations de la SNCC. La SNCC n'a jamais vendu ses installations. Et alors, la SNCC est en plein redressement.
Actualité internationale.
Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Lounes Magramané, est arrivé ce jeudi après-midi au Niger dans le cadre des efforts pour trouver une solution politique à la crise qui déchire ce pays ouest-africain. Ce déplacement survient alors que son ministre des tutelles, Ahmed Atta, a entamé la veille une tournée officielle au Nigeria, au Bénin et au Ghana dans le but d'expliquer la position de son pays et de tenter de faire écarter l'option militaire envisagée par la CEDEAO. Et puis Dmitri Outkine figure parmi les passagers présumés morts hier lors du crash d'un avion privé près de Moscou. C'est lui qui était cofondateur et numéro 2 du groupe Wagner et bien connu en Libye. Il y a notamment participé à la campagne de l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer du pouvoir en avril 2019. Le président de la Fédération des Russies, Vladimir Poutine, a adressé ses vives condoléances aux proches des victimes.
L'invité.
Notre invité, c'est le responsable du réseau d'innovation organisationnelle à pied d'œuvre à Bukavu, au sud Kivu. Médard Liboué Mufumbe parle de la nécessité qu'il y a de booster le développement à la base avec les recettes générées par les entités territoriales décentralisées. Il s'entretient à Bukavu avec Jean Kassami.
Asayas Barreto Darosa, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de séjourner à Kisangani, dans la province de la Tchopo. En quoi a consisté votre mission?
Je suis venu dans le cadre du projet Faire de la réserve de biosphère Liangambi un pôle d'excellence sur le climat et sur la biodiversité. Et dans le cadre de ce projet, nous avons remis 10 motos et 2 véhicules 4x4 au centre de surveillance de la biodiversité de l'Université de Kisangani et aussi à l'Université de Ghent, Congo Flux, qui sont des partenaires de ce projet. Nous avons remis ces engins roulants exactement pour faciliter la mise en œuvre du projet. Faire de Liangambi un pôle d'excellence sur la biodiversité et sur le climat a commencé en février et dans le cadre de ce projet, nous avons 3 volets, 3 piliers.
Lesquels ?
Le premier, c'est le climat. Le deuxième, c'est lié donc à la protection de la biodiversité. Et le troisième, c'est économie verte.
Et quelle en est la finalité?
L'idée, c'est de promouvoir les activités génératrices de revenus pour la population locale. Donc la population locale de la réserve de biosphère d'Yangambi est au cœur des activités de ce projet. Comme vous le savez, la réserve de biosphère d'Yangambi a été créée en 1976. Elle a été donc la toute première réserve de biosphère créée en Afrique. Et nous avons le programme MAB, Man and Biosphere, qui est mis en œuvre, bien sûr, au niveau d'Yangambi. Et donc, nous sommes là exactement pour travailler dans le cadre de ce projet, pour collaborer avec les partenaires et nous avons remis les engins roulants aux partenaires pour la bonne mise en œuvre de ce projet.
Quel est l'intérêt pour l'UNESCO à appuyer la biosphère de Yangambi?
Au niveau de l'UNESCO, nous avons un mandat large. Éducation, sciences naturelles et exactes, sciences sociales et humaines, culture, communication et information. Bien sûr, tout ce qui est lié au programme MAB, il s'agit d'un programme de l'UNESCO. À Yangambi, nous avons une réserve de biosphère de l'UNESCO. Ça relève du mandat de l'UNESCO, travailler pour protéger dans le cadre des sciences naturelles et exactes, pour promouvoir la biodiversité, pour protéger la biodiversité. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là. Encore une fois, la réserve de biosphère de Yangambi a été créée en 1976 et c'est un programme de l'UNESCO.
Vous venez de rencontrer les agences du système des Nations Unies assis à Kisangani. Qu'avez-vous partagé avec eux?
Nous avons la philosophie One UN. Nous sommes tous des agences de la même famille, la famille onusienne. Et donc, nous avons bien sûr échangé pour bien partager nos expériences, pour promouvoir la création de synergies et surtout pour renforcer l'esprit One UN. C'est dans ce cadre que j'ai eu à échanger avec les collègues et nous avons partagé des éléments d'information importants et surtout aussi nous avons parlé sur des pistes de création de synergies et de collaboration dans le cadre de l'esprit One UN qui nous guide.
Qu'est-ce qui a beaucoup retenu votre attention?
Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de défis, mais j'ai remarqué aussi une grande volonté de l'équipe de travailler ensemble en tant que famille pour relever les défis et surtout pour continuer à accompagner les actions du gouvernement de la RDC et du gouvernement provincial dans la mise en œuvre des priorités du gouvernement central et du gouvernement provincial dans le cadre du mandat de chaque agence. Et à notre niveau, au niveau des agences, nous sommes bien sûr aussi engagés à créer des synergies et à travailler en famille dans le cadre de l'esprit One UN.
Au lendemain de l'organisation du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, certaines informations ont circulé dans les réseaux sociaux faisant état de la possibilité des enseignants du Congo d'aller enseigner aux Seychelles. Est-ce que vous confirmez cette information?
Là, c'est une question bien sûr qui pourra être mieux donc adressée, répondue par les autorités du gouvernement. Nous, ce qu'on peut dire en tant qu'UNESCO, en tant qu'une agence du système des Nations Unies qui a un mandat clair sur l'éducation, c'est que nous sommes là depuis 1904, engagés à continuer à accompagner les actions du gouvernement dans leur domaine, dans le domaine des priorités du gouvernement. Et ça, on peut dire que nous sommes vraiment engagés, nous avons beaucoup d'activités au niveau de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, même au niveau de la recherche scientifique, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes engagés à continuer nos efforts. En ce qui concerne les questions liées à la politique spécifique du pays, bien sûr, là, les autorités du gouvernement seront en mesure de répondre.
Monsieur le représentant, merci.
Merci beaucoup.
C'était donc l'invité de Radio Kapi, le représentant résident de l'UNESCO en République démocratique du Congo. Baroto Darosa était interviewé à Kisangani par Jacques Mkongole. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.